On l'entendait dans le journal, apparu début décembre sur un marché de Wuhan en Chine. Le coronavirus a déjà fait 41 morts. Le nombre de cas de contamination confirmés atteint désormais 1354 selon le dernier décompte. Jeudi, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu l'urgence en Chine, mais reporté la décision de déclarer une situation d'urgence de santé publique de portée internationale. Les autorités chinoises ont néanmoins décidé de mettre en quarantaine plusieurs villes, soit aujourd'hui près de 56 millions de personnes. Dans ces villes, tous les événements publics du Nouvel An chinois commencés hier ont été annulés et des cas de contamination ont été relevés en Asie, mais aussi aux États-Unis. Et depuis hier donc, 3 cas ont été déclarés en France. Bonjour Patrick Zilberman.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes historien de la santé, spécialiste des épidémies, professeur émérite d'histoire de la santé à l'École des hautes études en santé publique. On vous doit quelques livres particuliers. En 2008, avec Antoine Flao, vous aviez dirigé des épidémies et des hommes. Et puis votre dernier livre date de 2013, il a été publié chez Gallimard et il s'intitule « Tempête microbienne au pluriel, essai sur la politique de sécurité sanitaire dans le monde transatlantique ». Pas de panique, mais un peu quand même, ce serait ça aujourd'hui le mot d'ordre.
De toute façon, la panique, c'est toujours le premier moment de ce genre d'événement. En général, l'indice qu'on sort régulièrement, c'est que les pharmacies sont dévalisées. Tout ce qui ressemble à un masque, quel qu'il soit, les gens se précipitent là-dessus. Bon, ça ne sert à rien, ces masques, hein. Mais
en Chine, ils ont l'air de dire que si.
Non, ça ne sert strictement à rien, si vous voulez, parce que les trous du masque sont beaucoup trop grands et laissent passer les gouttelettes, n'est-ce pas? Donc, ça sert uniquement pour les malades, pour essayer de limiter, si vous voulez, les postillons, enfin, etc., ce qu'ils peuvent envoyer à leurs interlocuteurs. Donc, la panique, c'est le début. Et le rôle des autorités, c'est justement de faire descendre le niveau de la panique. Alors, est-ce que les autorités chinoises y sont parvenues? On voit déjà une évolution, en fait. L'épidémie a été déclarée à l'OMS par les Chinois le 31 décembre. Il a quand même fallu attendre jusqu'au 20 janvier avant qu'il y ait un tournant dans le discours du gouvernement qui, jusque-là, nous assurait que franchement, c'était pas grand chose, c'était pas très dangereux, tout ça, il y a pas de quoi s'inquiéter. Et puis, le 20 décembre, l'un des meilleurs experts de la Commission nationale de santé chinoise, Zhong Nanchen, a déclaré que oui, effectivement, ce coronavirus était transmissible de personne à personne. Donc à ce moment-là, on est dans un contexte qui n'a rien à voir avec la transmission par des hôtes intermédiaires que seraient des petits animaux. On est dans le contexte d'une épidémie contagieuse, de maladies contagieuses, respiratoires contagieuses, très difficiles à contenir, si vous voulez. Et où donc des mesures s'imposent là réellement. Alors,
la mise en quarantaine, en l'occurrence.
Attendez, parce que jusque là, si
pas
vous
encore.
Voulez, non, pas jusque là. Il faut dire autre chose aussi, c'est que d'emblée, et là, le SRAS de 2003 montre, si vous voulez, qu'il y a des gens qui s'en souviennent.
Syndrome respiratoire aigu sévère.
C'est ça, exactement. À ce moment-là,
800 morts, hein,
en 774 exactement,
ouais, très précis,
dans le monde. À ce moment-là, si vous voulez, la Chine de Pékin s'était singularisée par un mensonge d'État, si vous voulez, visant à cacher, y compris à l'OMS, les progrès de l'épidémie. Donc il reste une certaine méfiance que vous voyez très bien transparaître dans la presse de Hong Kong, par exemple, ou dans la presse de Singapour. Et donc le gouvernement chinois est, comment dire, observé à la loupe pour voir si véritablement il cache quelque chose ou non.
3 mois avaient été nécessaires en 2003 pour que les autorités reconnaissent une crise sanitaire majeure. Là, vous évoquiez 3 semaines, donc on peut considérer qu'il y a du progrès.
Il y a du progrès, exactement. Mais on voit aussi, si vous voulez, que d'emblée, l'Imperial College, par exemple, qui est un centre d'études des maladies contagieuses et épidémiques et qui conseille l'OMS, avait Ah, dès le 20-22 janvier, si vous voulez, complètement ruiner le niveau de mortalité déclaré par le gouvernement chinois. Au lieu des quelques centaines de cas, l'Imperial College parlait déjà de 4000 cas. Alors c'était du calcul, c'était pas des cas constatés, mais si vous voulez, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose là qui se joue et qui s'est retrouvé à Genève mercredi et jeudi dernier dans le comité d'urgence.
De l'OMS,
il y a des éléments diplomatiques, si vous voulez, qui rentrent en ligne de compte dans le discours qu'on peut entendre sur cette épidémie.
Précisément, Patrick Zilberman, sur cette décision de l'OMS de jeudi de reconnaître l'urgence en Chine, mais de reporter la décision de déclarer une situation d'urgence de santé publique de portée internationale, faute d'informations suffisantes. Qu'est-ce qu'il faut en déduire ?
Alors, d'abord, on peut dire que le comité d'urgence, finalement, a appliqué le règlement sanitaire international. Vous savez que ce règlement prévoit que l'état de pandémie est déclaré lorsque deux régions de l'OMS, au moins, sont touchées par les cas. Alors, jeudi, on n'y était pas. Jeudi, on était encore dans un contexte purement Asie-Pacifique, Asie du Sud-Est même. Enfin, avec le Nord, avec le Japon aussi.
À partir du moment où ça passe aux États-Unis, puis maintenant en France,
en Europe,
on peut supposer qu'à
ce moment-là, la déclaration sera de portée d'un événement qui pourrait être, c'est le texte du traité, de portée internationale, pourrait être appliqué. Ça implique quand même des choses assez désagréables pour les gouvernements, des coûts notamment. Il faut se souvenir quand même que en 2003, la province d'Ontario a dû dépenser 1,5 milliard de dollars canadiens pour le système de soins, si vous voulez. Donc ça coûte de l'argent et puis il y a des coûts indirects aussi. Les touristes et les investisseurs restent chez eux, ne viennent plus. C'est très dommage pour le commerce local. Et pour l'industrie locale, si vous voulez. Donc, c'est pas une décision à prendre à la légère. Et le gouvernement chinois, qui se sentirait aussi un petit peu, montré du doigt, verrait ça peut-être pas d'un très bon œil.
Qu'en est-il, Patrick Zilberman, justement, de cette mise en quarantaine de près de 56 millions de personnes? On s'est déjà ému de la mise en quarantaine de la seule ville de Wuhan, 11 millions de personnes, puisque d'une certaine façon, c'était inédit. Enfin, on a entendu que dans l'histoire, c'était inédit. La ville a dit que ça devrait stopper efficacement la diffusion du virus, couper résolument l'épidémie, garantir la santé et la sécurité du peuple. Et puis on voit que progressivement, les quarantaines s'étendent. Là aussi, comment l'analyser? Là, du point de vue de l'histoire, vous n'êtes pas virologue, mais vous êtes un historien de la santé et des épidémies et des pandémies. Donc vous savez comment mettre en contexte et en histoire ces différentes réactions et cette différente gestion. Comment analyser cette mise en quarantaine, plutôt positivement, plutôt négativement? Certains s'en étonnent quand même.
Alors en fait, l'idée de base, c'est effectivement de couper la chaîne de la transmission. Donc on instaure un périmètre clos sur le plan géographique, si vous voulez, avec une population à l'intérieur qui ne peut ni sortir, ni avoir de contact avec l'extérieur. Et on pense arriver comme ça, si vous voulez, à couper la chaîne de la transmission. En réalité, bien entendu, c'est pas possible.
Surtout en période de Nouvel An chinois, cela
non,
dit. Hein,
surtout en période de Nouvel An chinois, et surtout lorsque une quarantaine de 54 millions, comment penser une seconde qu'il n'y aura pas des fuites? C'est absolument impensable. Il y en a déjà eu d'ailleurs, parce que, comme vous le savez, les trains et les avions ont été arrêtés depuis hier matin, mais pas les autoroutes n'étaient pas bloquées avant midi, heure locale. Donc il y a des gens qui ont pris leur voiture et qui sont déjà partis, si vous voulez. Donc, et bien évidemment, les fuites, les évasions, etc., si vous voulez, c'est le quotidien d'une quarantaine, parce que vous enfermez des gens sans véritablement de bonnes raisons ou sans leur expliquer, et ils ne pensent qu'à une seule chose, c'est à prendre la poudre d'escampette, c'est normal. Donc la quarantaine, si vous voulez, a d'abord des effets, je viendrai sur les effets positifs, mais a d'abord des effets pervers. L'effet pervers, c'est le principe même. Le principe de la quarantaine, c'est quoi ? C'est complètement différent de l'isolement des malades, si vous voulez, dans des chambres à pression négative pour que ne pas recycler les microbes. C'est autre chose. On n'enferme pas des malades, on enferme des gens asymptomatiques. Mais parmi ces gens asymptomatiques, il y en a peut-être qui sont déjà en période d'incubation et qui par conséquent sont potentiellement contaminateurs. Donc ce mélange, si vous voulez, entre personnes asymptomatiques qui ne sont pas contaminées et personnes asymptomatiques aussi qui sont en période d'incubation, ça déjà, ça pose problème. Et en particulier le fait que un certain nombre de gens vont essayer de s'échapper, parviendront à s'échapper, et donc auront été contaminés lors de la quarantaine et iront porter le mal un peu plus loin.
Alors, vertu de la quarantaine?
Alors, la vertu, c'est qu'il y a eu, si vous voulez, depuis le SRAS de 2003, on s'est occupé, il y a eu quelques études rétrospectives qui ont été faites, et on s'est aperçu de deux choses. D'abord, la durée d'application des mesures non médicales, c'est comme ça qu'on appelle dans le jargon quarantaine, etc., et l'isolement, a un impact sur le niveau de la mortalité. Donc ça, c'est une première chose. Et surtout, c'est la précocité de la mise en œuvre de ces mesures, si vous voulez, qui est l'élément essentiel. Plus vous mettez en œuvre ce genre de mesures tôt, moins l'épidémie risque de durer. Donc, le gouvernement chinois a raté le coche, parce qu'il aurait dû se déclencher beaucoup plus tôt qu'il ne l'a fait depuis hier.
Patrick Zilberman, on a tous en tête, bien entendu, et c'est pour ça que souvent la psychose s'empare de nous, on a tous en tête 1918, la grippe espagnole. On a d'ailleurs un peu tendance à oublier 1957 et la grippe asiatique, qui a quand même fait entre 1 et 4 millions de morts, et même 1968 et la grippe de Hong Kong qui a fait 1 million de morts. Mais on se réfère maintenant, effectivement, à 2003 et au SRAS, 774 morts, vous le rappeliez. Là, on dit que ce coronavirus est un cousin du SRAS. On ne devrait pas s'inquiéter tant que ça, à moins qu'on se souviennent, pour ceux qui étaient nés en 2003, qu'à l'époque, les experts disaient, de toute façon, on sait qu'un virus mutant, type grippal, type SRAS, arrivera un jour. C'est pas est-ce qu'il arrivera, c'est quand il arrivera. Et donc, on vit avec cette menace d'une pandémie mortelle. Est-ce que cette espèce d'épée de Damoclès qui fait que à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, 2003 le SRAS, 2004 H5N1 la grippe aviaire, 2009 H1N1 la grippe A, est-ce que c'est ça qui fait que on vit quand même dans un moment de petite panique, on va dire?
Non, je crois que ce sont des événements, si vous voulez. Il faut pas se fier aux chiffres, en fait. C'est ça la grande erreur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent 774 morts, c'est triste. Mais enfin, c'est quoi à côté du paludisme ou de la tuberculose, etc.
Ou Ebola.
Ou Ebola, exactement.
Ou du sida.
Oui, encore davantage. Les chiffres, si vous voulez, oubliez-les, parce qu'à ce moment-là, on est conduit sur des voies de garage dans notre réflexion. En fait, ce qui compte, si vous voulez, c'est l'impact que ce genre d'événement a sur la société. Qu'est-ce qui s'est passé en 2003? En 2003, il y a eu une crise sanitaire, donc une crise politique notamment entre la Chine et l'OMS. Une crise économique, parce que pendant un certain temps, les bourses ont plongé, le commerce ne fonctionnait plus, etc., etc. Donc c'est un événement multifacette, si vous voulez, qui met en cause quasiment tous les domaines de notre réalité. Et donc c'est pour ça que c'est important. La deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que les gouvernements craignent de ne rien pouvoir faire. Alors en fait, depuis 2003... il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. On a mis en avant ce qu'on appelle en américain la preparedness, qui est plus large que la préparation proprement dit. C'est-à-dire que les gouvernements ont revu, les gouvernements et les scientifiques évidemment, ont revu leurs recommandations pour l'alerte, pour la surveillance des cas, etc., etc. Et pour un certain nombre de mesures, si vous voulez, à la fois techniques et politiques, je pense notamment à la complète reconstruction de ce qu'est un service de maladies contagieuses qui a commencé à Toronto et qui ensuite s'est étendu dans le monde entier, si vous voulez. Donc il y a eu des progrès réels et on est mieux armé aujourd'hui, c'est incontestable, qu'on ne l'était en 2003. Mais on est mieux armé, mais il y a encore énormément de choses à faire, énormément de choses qui manquent. Par exemple, aujourd'hui, on est incapable de calculer la létalité de cette épidémie, c'est-à-dire le rapport du nombre de décès sur le nombre de cas. On est incapable
de... Je ne sais pas si ça progresse, ça se propage à une vitesse rapide
alors,
ou pas, par exemple.
On est incapable également de connaître la cinétique de l'épidémie, c'est-à-dire à quelle vitesse, effectivement...
On peut juste dire, mercredi, c'était 9 morts et 450 cas déclarés. Ça. Aujourd'hui, c'est 41 morts, 1300
voilà.
cas.
Mais peut-être que mercredi, il y avait déjà beaucoup plus de cas et beaucoup plus de morts que cela. Que ceux qui sont,
donc il y a encore beaucoup d'incertitudes.
Ah, énormément, oui.
L'historien de la santé des épidémies, Patrick Zilberman, est avec nous aujourd'hui. De la gestion privée de la santé à la gestion publique, on peut tirer un trait, un fil?
Ça dépend dans quel domaine. Dans le domaine, effectivement, de la prévention du tabagisme ou de l'alcoolisme, sans doute, oui. Il y a certainement une tendance à se débarrasser sur le privé de ces soucis. Sur le problème du contrôle des épidémies, ça m'étonnerait.
De ce qui nous intéresse aujourd'hui,
ça m'étonnerait.
Faut exagérer. Alors, vous parliez justement de la gestion par les autorités chinoises tout à l'heure. Peut-être pouvons-nous parler du début de gestion par les autorités françaises, puisque jusqu'à présent, ils n'avaient pas à s'en préoccuper plus que d'autres pays. Mais depuis hier soir et l'arrivée sur le sol français de 3 cas déclarés, la ministre de la Santé s'est emparée du sujet de façon un peu plus précise en disant justement qu'on était mieux préparé, que tout était pris en main, tout était sous contrôle. La grande difficulté, Patrick Zilberman, dans ces cas, c'est donc d'informer sans paniquer la population.
Oui,
et ça c'est extrêmement difficile pour les pouvoirs publics.
Oui, c'est le graal de la communication, ça. Mais c'est effectivement très difficile. L'idée, si vous voulez, une communication idéale, ce serait celle qui dirait, voilà, sur ce compartiment de l'événement, ça va, c'est bien, on est au point. Par contre, ici, ça va moins bien, il faut qu'on fasse des progrès. On n'entendra jamais ça. On a la communication et surtout la communication publique en France, si vous voulez, je parle pas d'Agnès Buzyn là, mais la communication publique en France par les autorités sanitaires est une calamité. Ça l'a toujours été, ça continue de l'être.
Pourquoi ?
Bah parce que précisément, on est tellement angoissé à l'idée de paniquer les populations qu'on finit par ne plus rien dire du tout, ou alors on finit par déraper parce que on ne surveille pas assez ou on n'étudie pas assez, si vous voulez, les messages. Alors Agnès Buzyn a commencé à donner des messages très très succincts, et je pense qu'elle a raison. C'est-à-dire l'idée, c'est factuel. Voilà, il y a des cas, on les soigne, on s'occupe d'eux, etc. C'est factuel. Elle ne tire aucune conclusion prématurée, ce qui serait prématuré. Elle se contente de dire ce qui se passe. Donc jusque-là, on n'a rien à dire, c'est très bien, si vous voulez.
Est-ce que vous savez...
Mais on s'inquiète sur la communication future.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé en 2003? On a peut-être encore en tête, il y a une dizaine d'années, ce qui s'est passé en 2009, qui avait suscité beaucoup de critiques contre la ministre de l'époque, Roselyne Bachelot, avec cette campagne de vaccination coûteuse, dont certains disaient qu'elle était démesurée. En 2003, il s'était passé quoi ?
En 2003, je crois qu'en France, il y avait eu 7 cas, retour du Vietnam en particulier, où sévissait le SRAS à Hanoï, à l'hôpital français de Hanoï. Donc il n'y avait pas eu véritablement de problème, mais il y avait eu une mobilisation des autorités de santé. Avec les moyens du bord à l'époque, si vous voulez, mais on n'avait pas eu à faire face, si vous voulez, à un mouvement comparable à celui de la grippe de 2009. Quant à Roselyne Bachelot, je pense que les critiques qui lui ont été adressées sont à 50% injustes. Elle a acheté beaucoup de vaccins, oui, effectivement, parce que l'idée c'était de protéger la population, et elle les a achetés parce que c'était le marché qui le voulait comme ça, à une époque où on pensait qu'il aurait fallu 2 injections par personne. Et puis on s'est aperçu au mois de septembre, si vous voulez, que non, une seule suffisait, donc on avait trop de vaccins. On avait peut-être trop de vaccins, mais on pouvait les donner à certains pays africains qui n'en avaient pas et qui en avaient bien besoin et qui n'avaient pas les moyens de se les payer, par exemple. C'est bizarre, mais on l'entend jamais, ça. Donc c'était assez injuste. La grande erreur de Roselyne Bachelot, c'est de s'être mise en avant elle-même, si vous voulez. L'idée, c'est de ne surtout pas mettre le ministre en première ligne. Pourquoi ? Parce que les critiques deviennent immédiatement politiques. Moi, j'aime pas Obama, donc je dis que c'est mauvais. J'aime pas Sarkozy, je dis que c'est mauvais. J'aime pas Macron, je dis que c'est mauvais. C'est pas ça le problème. Évidemment.
Ah bon entendeur, ouais. Vous êtes bien placé pour nous faire comprendre, Patrick Zilberman, au fond qu'une épidémie, ça n'est pas qu'une affaire de santé. Et d'ailleurs, vous rappeliez les effets, l'impact sur la société en général d'une épidémie et le pourquoi c'est si important. En 2003, cette épidémie de SRAS qui était partie de Chine s'était déjà transformée en crise de confiance, puisque, vous le rappeliez tout à l'heure, les autorités avaient sérieusement minimisé l'ampleur de l'épidémie. Aujourd'hui, nombreuses sont les sociétés, dont nous d'ailleurs, qui traversent une crise de confiance, voire qui vivent dans la défiance. Est-ce que de ce point de vue-là, vous êtes inquiet de la façon dont nous, citoyens d'ailleurs, ça n'est pas que toujours les autorités publiques, nous citoyens et les autorités publiques peuvent s'entendre pour gérer calmement et au mieux une épidémie si tant est qu'elle arrive à s'étendre sur le territoire français par exemple?
Oui, on peut penser qu'on risquerait, le cas échéant, de rencontrer quelques problèmes, notamment avec les réseaux sociaux. La défiance est là, et puis il n'y a pas que la défiance dans la population. Il y a une certaine arrogance aussi de gens qui pensent tout savoir, être plus savants que n'importe qui, si vous voulez, et qui décideraient comme ça, parce que ça leur fait plaisir, que telle mesure est bonne, que telle autre est mauvaise, etc. Donc ça alourdit encore, si vous voulez, la tâche de la communication publique, ça la complique considérablement. Et là où on peut quand même sérieusement s'inquiéter, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le peu de cas en France qu'on a fait jusqu'ici de la communication publique, ou alors le peu de sérieux de cette communication, si vous voulez. Quand on voit effectivement l'état de la société, l'état des mentalités, l'état de l'esprit public, si vous voulez, il y a de quoi s'inquiéter.
Vous disiez il y a quelques années qu'il fallait faire émerger une culture civique de l'épidémie,
oui,
pour les citoyens. Il y a quelques années, hein, il y a, je sais pas, 5-6 ans, disons. Est-ce qu'en 5-6 ans, vous avez l'impression qu'on a fait des progrès ou plutôt qu'on est en phase de régression? C'est vrai que le feuilletonnage par les réseaux sociaux de la propagation de l'épidémie participe d'une psychose grandissante.
Oui, absolument. Je pense pas qu'on ait fait de progrès. Je pense que le civisme est une valeur qui n'est pas absolument partagée par la majorité de nos concitoyens. Il y a un problème. Je pense que pour l'instant c'est trop tôt pour dire que ceci ou cela ne va pas, mais on peut effectivement, peut-être qu'on a tort, j'espère qu'on a tort, on peut s'inquiéter, quoi.
L'état de nos hôpitaux.
Alors, l'état de nos hôpitaux, c'est aussi un gros problème, parce que si vous voulez, c'est ça le contexte de la quarantaine. Je parle pas des quarantaines à domicile pour individuels, mais des quarantaines collectives. La quarantaine, ça peut servir à quelque chose si, dans le même temps, si vous voulez, il y a un surcroît de mobilisation à l'hôpital. Et un surcroît de mobilisation sérieux, parce que vous allez avoir, au cas où l'épidémie si vous voulez, le SRAS a été d'abord et avant tout une épidémie nosocomiale, donc ça s'est passé à l'intérieur de l'hôpital, sauf à Singapour et à Hong Kong. Ça aurait pu se passer dans la société, dans la communauté, comme on dit en employant un anglicisme, en Ontario, au Canada, mais c'est resté confiné à l'hôpital. Et donc, les Canadiens à Toronto ont fermé carrément des hôpitaux pour les consacrer uniquement aux malades du SRAS. Donc, je ne sais pas si on peut faire ce genre de choses ici. On a un personnel qui est techniquement extraordinairement compétent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on a un manque de moyens à l'hôpital, ça c'est clair aussi, un manque de personnel surtout, et quand on sait, si vous voulez, que vous seriez obligé de confiner, de faire des quarantaines sur le lieu de travail, de confiner des infirmières, des médecins, etc. sur leur lieu de travail, pour ne pas qu'ils risquent d'apporter la contagion dans leur famille, c'est déjà très pénible en soi, mais c'est très 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 fatigant, donc on a besoin d'une certaine rotation de la force de travail à l'hôpital, et ça on n'a pas les moyens de le faire en France.
Dernière question, Patrick Zilberman, à propos de la communication. On a parlé des autorités publiques, d'une certaine façon des réseaux sociaux où chaque citoyen est mis à contribution ou se met lui-même à contribution. Au milieu, il y a les relais. Les relais, les intermédiaires, ce sont les médias. Est-ce que, c'est l'éternelle question, hein, est-ce qu'on en fait trop déjà? Est-ce qu'on a tendance à attiser cette panique montante rien qu'en en parlant, ou est-ce que c'est absolument important d'en parler? En quelque sorte, à quoi sert l'information? À mieux se préparer?
Non, mais il y a médias et médias. C'est-à-dire que, là, je ne parle pas des réseaux sociaux, il y a les chaînes d'information en continu, et puis il y a le reste. Les chaînes d'information en continu peuvent être très nocives. Parce qu'elles ont besoin de tout, 24 heures durant, si vous voulez, d'avoir de l'information. Et donc, là-dedans, si vous voulez, il y a des choses qui sont vérifiées, des choses qui sont pas vérifiées. Des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Il y a aussi tous ces experts autoproclamés, si vous voulez, qui vous racontent n'importe quoi. Les chaînes d'information continue sont très friands. Il faut occuper les tranches. C'est tout. Tandis que les médias, je pense à la presse écrite, et à mon avis plus...
Nous, un peu?
À vous un peu si vous n'êtes, enfin tout ce qui n'est pas chaîne d'information en continu, voilà. À ce moment-là, si vous voulez, vous avez des journalistes beaucoup plus compétents, mieux formés et certainement beaucoup plus, enfin sentant mieux, si vous voulez, ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire pour ne pas attiser précisément la panique, ne pas rassurer non plus forcément parce que c'est lénifiant et c'est au contraire démobilisateur, mais ne pas attiser la panique. Donc il y a dans les médias, il y a des nuances, si vous voulez, il y a des couches qui sont critiquables, d'autres qui le sont moins.
Voilà. Après, reste à gérer l'incertitude.
Oui, c'est ça.